Chapitre 33, Nécessité de l'étude quotidienne de la Bible. Ce que Dieu appelle approcher la parole devrait étudier sans cesse et chercher constamment à se perfectionner afin de donner l'exemple au troupeau de Dieu et de faire du bien à tous ceux avec lesquels ils entrent en contact. Ceux qui ne voient pas la nécessité de progresser et de se perfectionner ne croîtront pas dans la grâce et dans la connaissance du Christ. Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre qui s'accomplit dans le monde et qui doit préparer des hommes et des femmes à l'immortalité. Il entre dans les plans de Dieu que des agents humains aient l'insigne honneur d'être ouvriers avec Jésus-Christ pour le salut des âmes. La parole de Dieu révélait clairement que le privilège de celui qui est engagé dans cette grande œuvre est de comprendre que quelqu'un se tient à sa droite, prêt à l'aider dans tous ses efforts sincères pour atteindre le plus haut degré moral et spirituel. Il en sera ainsi pour tous ceux qui sentiront leur faiblesse. Qu'ils considèrent l'œuvre de Dieu comme sacrée, et qu'ils apportent chaque jour à l'Éternel des offrandes de joie et de gratitude en retour de la puissance de la grâce par laquelle ils peuvent avancer dans la vie divine. En considérant les nombreuses occasions perdues par son manque de diligence, l'ouvrier devrait avoir une humble opinion de lui-même. Cependant, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il s'efforce de racheter le temps. Les hommes que Dieu a choisis pour être ses ministres devraient se préparer à leur tâche par un examen consciencieux de leur cours, et par une communion intime avec le Rédempteur du monde. S'ils n'ont pas de succès dans l'œuvre du salut des âmes, c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en règle avec Dieu. Il y a trop d'ignorance volontaire parmi ceux qui prêchent la parole. De tels ouvriers ne se sont pas qualifiés pour cette œuvre par une entière compréhension des Écritures. Ils ne saisissent pas l'importance de la vérité pour notre temps, et ainsi cette vérité n'est pas pour eux une réalité vivante. S'ils humiliaient leur cours devant Dieu, s'ils marchaient en accord avec les Écritures et en toute humilité d'esprit, ils auraient une vision plus claire du modèle qu'ils doivent imiter. Mais ils ne gardent pas les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de leur foi. Victoire sur la tentation. Nul n'est obligé de succomber aux tentations de Satan, violant ainsi sa conscience et offensant le Saint-Esprit. La parole de Dieu est telle que tous les humains peuvent recevoir le secours divin dans leurs efforts pour triompher du mal. Si la personne de Jésus est sans cesse présente à leur esprit, ils seront transformés à son image. Tous ceux en qui le Christ habite par la foi possédant une puissance qui leur donne du succès dans leurs travaux. Ils progressent sans cesse et la bénédiction de Dieu, évidente dans la prospérité de leur œuvre, attestera qu'ils sont véritablement ouvriers avec le Christ. Mais aussi loin qu'un ouvrier puisse avancer dans la vie spirituelle, il n'arrivera jamais au point où il n'aura plus besoin de sonder diligemment les Écritures, car c'est en elles que se trouvent les preuves de notre foi. Chaque point de doctrine, même après avoir été accepté comme la vérité, devrait être confronté avec la loi, et avec les témoignages. S'il ne peut supporter cette épreuve, la lumière n'est point en lui. Le grand plan de la rédemption, tel qu'il est révélé dans l'œuvre finale de ces derniers jours, devrait recevoir une attention particulière. Les signes sans rapport avec le sanctuaire céleste devraient faire sur les esprits et sur les cours une impression telle qu'elle se communique à d'autres. Nous avons tous besoin d'une intelligence plus éclairée au sujet de l'œuvre expiatoire qui s'accomplit dans le sanctuaire céleste. Ceux qui comprendront cette grande vérité travailleront en harmonie avec le Christ à préparer un peuple qui pourra affronter le grand jour de Dieu, et leurs efforts seront couronnés de succès. Par l'étude, la contemplation et la prière, le peuple de Dieu sera élevé au-dessus des pensées et des sentiments ordinaires et terrestres. Il sera en harmonie avec le Christ et avec la grande œuvre qu'il accomplit pour purifier le sanctuaire. Ceux qui adorent le Sauveur ici-bas passeront soigneusement en revue leur vie et examineront leur caractère à la lumière du grand idéal de justice. Ils auront ainsi conscience de leurs défauts et comprendront qu'ils ont besoin du secours de l'Esprit de Dieu pour être qualifiés en vue de l'œuvre grande et solennelle qui de nos jours repose sur les ambassadeurs de Dieu. Jésus a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Combien y en a-t-il aujourd'hui parmi ceux qui prêchent la parole qui mangent la chair du Christ et qui boivent son sang? Combien comprennent ce mystère? Le Sauveur lui-même l'explique. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu doit imprégner le caractère de ceux qui y croient. La seule foi vivante est celle qui reçoit et qui assimile la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de l'être et le mobile de la vie et de l'action. Jésus est appelé la parole de Dieu. Il accepta la loi de son Père, mit en œuvre ses principes dans sa vie, manifesta son esprit et montra ce que peut faire dans le cours sa puissance bienfaisante. Jean dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il faut que les disciples du Christ fassent la même expérience. Il faut qu'ils s'assimilent la parole, qu'ils soient changés à l'image de Dieu par la puissance du Christ et qu'ils réfléchissent les attributs divins. Il faut qu'ils mangent la chair et boivent le sang du Fils de Dieu, faute de quoi ils ne posséderont pas la vie en eux-mêmes. L'Esprit et l'œuvre du Christ doivent devenir l'Esprit et l'œuvre des disciples. La vérité dans la vie. Pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, il ne suffit pas de prêcher la vérité, il faut la vivre. Le Christ doit demeurer en nous et nous en lui. Chacun doit avoir une expérience personnelle et faire des efforts pour atteindre les âmes. Dieu exige que nous engagions toutes nos énergies dans ce travail, et que, par un effort persévérant, nous nous appliquions à le faire d'une manière acceptable. Il s'attend à ce que chacun ouvre son cours à la grâce du Christ afin de devenir une lumière resplendissante. Si les ouvriers de Dieu développent consciencieusement toutes leurs énergies, ils pourront travailler avec intelligence et sagesse et Dieu répondra certainement à leurs efforts pour élever, affiner et sauver leurs semblables. Tous les ouvriers doivent faire preuve de tact et placer leurs facultés sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ils doivent avoir à cœur d'étudier la parole et d'entendre la voix de Dieu leur parler par ses oracles vivants, par des réprimandes, des instructions ou des encouragements. Son Esprit les fortifiera afin qu'ils puissent, comme ouvriers de Dieu, avancer dans la vie chrétienne. Ainsi, pas à pas, ils seront conduits vers les sommets les plus élevés et leur joie sera complète. Tandis qu'ils accompliront l'œuvre que Dieu leur a confiée, les ouvriers ne trouveront pas le temps de se glorifier, et ils n'en éprouveront pas même le désir. Ils n'auront pas le temps de murmurer, ni de se plaindre, car leurs affections seront concentrées sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. L'âme et le corps seront alors enrôlés dans l'œuvre du Maître. Les ouvriers ne travailleront pas égoïstement, mais par amour pour le Christ. Ils renonceront à eux-mêmes. Ils élèveront la croix du Sauveur, car ils sont ses vrais disciples. Jour après jour, se nourrissant des précieuses vérités de la parole de Dieu, ils seront fortifiés pour le devoir et affermis pour l'épreuve. De cette manière, ils deviendront des hommes et des femmes vaillants, bien développés en Christ. Ils seront alors de véritables fils et de véritables filles du Roi des cieux. La grandeur de la vérité qu'ils aiment et contemplent élargit l'esprit, affermit le jugement et élève le caractère. Ils ne seront pas des novices dans la grande œuvre du salut des âmes parce qu'ils travaillent avec la sagesse qui leur vient de Dieu. Ils ne seront pas non plus des nains dans la vie religieuse, mais ils croîtront en Christ, leur chef vivant, jusqu'à la stature parfaite d'homme et de femme en Jésus-Christ. Les conflits avec les ennemis de la vérité ne feront que fortifier leurs espérances, et ils remporteront des victoires précieuses parce qu'ils appelleront à leur secours le Tout-Puissant qui ne déçoit jamais celui qui le cherche humblement. Et lorsque leurs efforts seront couronnés de succès, toute la gloire en reviendra à Dieu. Le ciel sympathisera et collaborera avec eux. Ils seront véritablement en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. La pureté de leur cours et de leur vie, la force de leur vocation, leur fermeté, et leur utilité dans la cause de Dieu marqueront leur caractère. Ils seront l'élite de Dieu. S'élever au-dessus des perplexités et des épreuves. Dans la vie religieuse de tous ceux qui finalement remporteront la victoire, il y aura de terribles moments d'angoisse et d'épreuves, mais la connaissance des Écritures permettra à ces enfants de Dieu de se souvenir des promesses encourageantes du Sauveur, promesses qui réconforteront leur cœur et affermiront leur foi en la force du Tout-Puissant. L'Écriture dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. Tous les chrétiens devraient apprendre que c'est une partie de la discipline de l'école du Christ qui est essentielle pour les purifier des souillures de la terre. Ils devront endurer avec courage les outrages et les attaques des ennemis et surmonter tous les obstacles que Satan placera sur leur chemin pour les empêcher d'avancer. Ce dernier essaiera de les amener à négliger la prière et de les décourager dans l'étude des Écritures. Il projettera son ombre odieuse sur leur route afin de leur dérober le Christ et les attraits du ciel. Nul ne devrait vivre dans la crainte et le tremblement, dans les doutes et les plaintes continuelles. Il faut regarder à Dieu, contempler sa bonté et se réjouir dans son amour. Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. À mesure que grandira votre confiance, par la foi en Jésus, l'espérance naîtra en vous. La lumière qui jaillit de la croix du calvaire vous révélera le prix que Dieu attache à une âme et elle vous incitera à porter la lumière dans le monde. Ici-bas, le nom d'un grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, mais un caractère sans tache subsistera pendant l'éternité. Dieu vous accorde l'intelligence et le jugement afin que, par ce moyen, vous puissiez saisir ses promesses. Et Jésus est prêt à vous aider à former un caractère solide et bien équilibré. Les possesseurs d'un tel caractère ne se découragent jamais s'ils ne réussissent pas dans les affaires temporelles. Ils sont la lumière du monde. Satan ne peut ni détruire ni neutraliser la lumière qui émane d'eux. Dieu désire confier une tâche à chacun de nous. Il n'entre pas dans ses desseins que les âmes soient soutenues par la sympathie et par la louange des hommes au cours de la bataille de la vie, mais il désire que ses enfants sortent du camp, portent l'opprobre, combattent le bon combat de la foi, et, par sa force, se tiennent debout en dépit de toutes les difficultés. Dieu a ouvert pour nous tous les trésors du ciel par le don précieux de son Fils qui peut parfaitement nous élever, nous ennoblir et, grâce à la perfection de son caractère, nous préparer à un service utile dans cette vie et en vue de la vie future. Jésus est venu dans le monde et il y a vécu comme il demande à ses disciples de vivre. Sa vie a été une vie de renoncement et de continuel sacrifice de soi. Si nous encourageons l'égoïsme et notre amour des aises, si nous satisfaisons nos inclinations, et ne faisons pas tous nos efforts pour collaborer avec Dieu dans l'œuvre merveilleuse qu'il accomplit pour nous élever, nous ennoblir et nous purifier afin que nous devenions ses fils et ses filles, si nous ne nous conformons pas à ses exigences, nous subissons une perte continuelle dans cette vie, et nous risquons de perdre la vie future, la vie éternelle. Dieu désire nous voir travailler sans lassitude et sans découragement, mais il nous veut animer d'une foi et d'une espérance inébranlables, pleins d'entrain et de joie, représentant le Christ dans le monde. La religion de Jésus, c'est la joie, la paix et le bonheur. Tandis que nous sonderons les Écritures et que nous verrons la condescendance infinie du Père donnant Jésus au monde afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, toutes nos facultés devront accorder louange, honneur et gloire à celui qui témoigne aux enfants des hommes un amour ineffable.